maintenant, ça fait plusieurs semaines déjà que votre prêtre m'invite comme chaque année. Hein, je viens pour moi chaque année, il me dit viens, venez voir, etc. On va prier ensemble. Je dis oui, mais je suis content de venir prier avec vous. J'ai perdu un peu de temps et je n'avais pas pris tout de suite le billet de train. Donc quand j'ai voulu avoir un billet de train, j'en ai trouvé. C'était pas extrêmement commode, et du coup, on avait l'impression que c'était pas possible, et finalement, il n'y avait plus de billets, enfin, on s'est fichu. Le père m'a insisté, il a trouvé quand même des billets pour que je vienne. Et même comme ça, j'arrive à venir une heure en retard, indépendamment de ma volonté. Et ça, moi, ça me fait réfléchir. Et je pense que Dieu y est pour quelque chose, mais quand il se passe des événements comme ça dans la vie, on veut absolument faire ça. Et puis finalement, ça se passe autrement. Quand on l'a dit 3 fois, 4 fois, c'est pas ce qu'on voulait qu'il se passe. C'est que Dieu a quelque chose à nous dire. Et moi, j'ai essayé de prendre ça du bon côté, en pensant que Dieu me proposait d'avoir une place un peu plus modeste, comme ça là-bas. Alors je vous dis tout de suite, je suis venu communier, alors que normalement, je ne le fais pas. Si je n'ai pas entendu l'évangile, ce qui était le cas, je ne me permets pas de communier parce que, d'après mon expérience, on ne communie pas quand on n'a pas entendu l'évangile, il y a une cohérence. Mais là, je me dis, si je ne communie pas, ça va vraiment faire de la peine à tout le monde, et vont dire que je ne les aime pas, ou je ne sais pas quand je dis attends, puis je le comprends. Mais tout de même, c'était pour accepter ce que Dieu nous dit à travers les événements de la vie. Finalement, ce n'est pas toujours très clair, mais. Voilà, il faut accepter que Dieu a un langage. Dieu nous parle de beaucoup de façons en fait. Hein. Mais il nous parle en particulier à travers les événements de notre vie. Mais ça m'intéresse beaucoup. Donc, ça, c'est une chose que je voulais dire. Et ensuite, Père Mignard me disait que une des questions que nous nous posons, moi aussi, hein, c'est comment faire quand on confesse des péchés et que ces péchés reviennent tout le temps. C'est au fond l'expérience, je ne veux pas être indiscret, je ne regarde personne, je ne connais pas. C'est vrai que c'est un peu l'expérience que nous avons. On nous dit dans l'église orthodoxe, toujours, voilà, il faut se confesser, papa. Je ne sais pas combien de fois vous confessez, mais enfin, je crois, minimum une fois par mois. Il y a des gens qui se confessent toutes les semaines, il y en a qui se confessent tous les jours. Enfin, bon. Donc, c'est vrai que la confession fait partie de notre expérience dans l'église orthodoxe, c'est un peu une caractéristique, disons, de la tradition orthodoxe, de la tradition des saints-pères, c'est d'avoir une démarche de remise en question, une démarche par laquelle on dit qu'on n'a pas raison, on voit pour s'être trompé, on cherche à voir pour s'être trompé, avec cette idée très profonde, chrétienne très profonde, qui vient de Saint Jean-Baptiste, et que le Christ a reprise, et que c'est en reconnaissant ses péchés qu'on avance, qu'on évolue et qu'on grandit. Enfin, c'est vrai qu'il y a un programme dans l'Église qui est un programme d'évolution. Et l'Église, c'est fait pour ça, si on peut dire, de permettre à l'être humain d'évoluer, de passer, comme souvent la parole biblique, hein, de passer de l'image à la ressemblance. C'est ça le but de notre vie, c'est d'arriver, qu'il nous soit donné de ressembler à Dieu. Ça paraît ambitieux, mais c'est quand même ça le but de la vie chrétienne, c'est la vie de la vie humaine purement et simplement, puisque vous savez très bien que dans le livre de la Genèse, quand Dieu a créé l'être humain, il a créé à l'image et pour la ressemblance. Donc c'est ça, comme c'est dit dans la Bible, c'est ça le programme pour la vie de l'homme, c'est d'arriver à ressembler à Dieu. Donc c'est pour ça qu'on se confesse, pour essayer de se débarrasser de tout ce qui nous empêche d'arriver à cette ressemblance, tout ce qui est... je sais pas, les parasites, tout ce qui est incompatible avec le projet, et ça, nous savons à peu près dans notre propre vie ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous sépare de l'amour du Christ, et tout ce qui est, disons, incompatible avec cette ressemblance. Peut-être qu'il y a parmi vous des personnes qui peignent des icônes. Est-ce qu'il y a des personnes qui peignent des icônes? Vous, monsieur, vous peignez? Et quand tu peins, tu écris une icône, bon. C'est une action très, très profonde. En fait, c'est pas d'être fidèle à l'image qui t'est révélée, à l'image dont tu es responsable en tant qu'iconographe. mais on manque du pain, il y a des tas d'obstacles qui viennent, il y a des obstacles matériels, il y a de la poussière, il y a le bruit, il y a les cônes qui tombent, il y a le vernis qui ne marche pas, il y a la peinture qui tourne, en fait, il se passe beaucoup d'événements techniques qui pourraient être découragés et qui, en fait, empêchent la réalisation de cette image simple qu'est l'icône. Et pour nous, c'est un peu pareil, si vous voulez, nous sommes appelés à réaliser cette icône du Christ dans notre propre vie. C'est pas arrivé, vous comprenez le mot arriver, ça c'est vraiment pas important du tout, mais de pouvoir recevoir de Dieu la grâce de lui ressembler. Alors ça c'est une bonne expression, on peut la noter tout de suite. Recevoir de Dieu la grâce de lui ressembler. Mais c'est vrai que cette grâce que Dieu nous donne, qu'il nous a donnée déjà en fait, quand il s'est fait homme, c'est déjà fait en fait, et qu'il nous donne constamment dans l'Évangile, à travers l'exemple des saints, cette grâce de nous ressembler, c'est une grâce qui est quelquefois est inaccessible, justement tellement nous sommes encombrés par des éléments hétérogènes, contraires et incompatibles avec cette grâce. Vous voyez, c'est vrai que c'est moi, l'exemple le plus fréquent, c'est l'exemple du jugement, par exemple. C'est une manie en France, pas chez les Roumains, parce que les Roumains sont très gentils, mais chez les Français, la maladie du jugement d'autrui. Alors on juge tout le monde, le président de la République, le ministre, c'est ça, puis on descend dans l'échelle, et même le voisin, même ses enfants, même ses parents, enfin bon, c'est une maladie. Donc cette pathologie, je dis ça en plaisantant, mais c'est très sérieux parce que c'est une question de vie ou de mort quand même. Donc c'est bien de plaisanter, mais il s'agit quand même de choses très très sérieuses. Et que si cette question du jugement, cette maladie, cette pathologie du jugement qui encombre en fait l'homme intérieur et qui est tout à fait en contradiction avec ce que le Christ a enseigné, parce que dans l'Évangile, le Christ est très clair là-dessus, mais le jugement, c'est incompatible. Je ne peux pas recevoir la grâce que Dieu veut me donner et qui me donne déjà si je suis paralysé, encombré, envahi même quelquefois par le jugement. Le jugement, quelquefois, ça nous envahit tellement. C'est-à-dire que c'est une dame que j'ai vue hier, elle est en conflit avec son fils dans sa famille, maintenant, et bien elle ne dort plus la nuit même. Elle ne dort plus la nuit. Parce que tout le temps, elle reprend à sa personne, elle me dit ah, elle m'a fait ça, je n'ai rien compris. Mais donc, c'est la pathologie du jugement d'autrui qui est alimentée par beaucoup d'autres causes, comme par exemple le sentiment d'être victime, le sentiment d'avoir raison. Le sentiment que l'autre est un ennemi, ou un adversaire potentiel, c'est très complexe. Si c'est incompatible avec la grâce de Dieu, il n'y a pas de place. Ça m'a fait avec ça, ça m'a fait aussi, quand elle sent, il est dit d'une façon positive. Il dit qu'en fait, le cœur humain, enfin l'homme intérieur, si vous voulez, l'homme intérieur, c'est un espace. Et dans un espace, au fond, c'est un espace créé quand même, c'est pas un espace infini. C'est un espace fini avec des limites, avec des bornes, et donc tout espace créé, par exemple ici on a un espace créé, il a ses limites, et dans cet espace on peut mettre un certain nombre d'objets, on va saturer l'espace, on met des meubles, il y a des bancs partout, et donc finalement on occupe l'espace, et c'est vrai qu'il y a un moment où il n'y a plus de place pour autre chose. Donc c'est ce qui se passe avec nous, si vous voulez, notre espace intérieur, il est encombré par des objets qui sont des objets tout à fait des objets de mort, en fait, parce que le jugement, c'est la mort, quand même. Hein. On commence par juger, après ça, on condamne, et éventuellement, on exécute, si on peut. Mais ben, on passe, c'est pas facile. C'est pas facile d'exécuter notre prochain, c'est interdit, alors je ne sais pas. Au bout du jugement, il y a généralement un pistolet, une flèche, qu'on peut préparer pour nos ennemis. Ça, c'est incompatible. Mais alors vous allez me dire, c'est la question dont vous a proposé de faire. Mais comment faire? Parce que moi, toutes les semaines, je confesse ça, et je ne m'en sors pas, je retombe là-dedans, avant, je ne change pas. Alors là, cette question est vraiment très importante, parce que ça peut nous décourager complètement, nous désespérer complètement, et on va renoncer à se confesser, parce que ça ne sert à rien, au fond, on ne change pas, donc on arrête de se confesser, ça ne sert à rien. Et même, on va même. Se décourager par rapport à l'Église, mais au contraire, quoi, ça me sert d'être chrétien. Il y a la liturgie tous les dimanches, je ne change pas, je crois que c'est méchant, aussi bête, aussi agressif, aussi négative, je ne change pas. Voilà le drame. Ça, c'est une question qui est très importante, parce que cette conscience que je ne change pas, c'est le début de ce qu'on appelle le repentir. Et qu'à un moment, le fait de ne pas changer, ça nous fait vraiment mal, ça nous fait souffrir intérieurement, soit on ne dort pas la nuit, soit on peut verser des larmes, ça nous coupe la perspective, c'est pas possible, je ne change pas. Comment faire, qu'est-ce qu'on devrait faire pour changer, pour cette confession hebdomadaire, pour cette confession mensuelle, cette confession quotidienne, porte des fruits. Donc ça ne soit pas désespérant, on dit bon, encore que j'ai des espoirs, et tout le monde dit on va grandir aussi, il y a une haine du péché, c'est quand même une piste. Mais franchement, j'ai lu ce que j'ai apporté aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'opinion des frères à ce sujet-là. Parce que les dangers les interne, il y a deux façons de les faire. Il y a une que les saints Porphyre trouve inutile, ce serait de lutter contre les péchés. C'est pas ça, tu perds ton temps. Alors, vous êtes très étonné. On sait que vous luttez contre le péché. Les pères Porphyre ne dit pas ça. Et beaucoup le sentent. Ne disent pas ça, mais non, ça ne sert à rien du tout. On ne lutte pas contre les passions, on ne lutte pas contre les péchés. Tiens, je ne vois pas la mort, on a vu la société dernière, je crois, comment il y a la même religion. Mais ça ne sert à rien, parce que si tu luttes contre le péché, tu lui donnes de la consistance, tu le fais exister, tu lui donnes de l'importance, le diable est content, parce qu'il a trouvé quelqu'un qui se bat contre lui. Donc finalement, là, et c'est absolument désespérant, on se.
Personne vivant est absent
de la vie. Donc on peut faire toutes les assises qu'on veut, toutes les liturgies qu'on veut, tous les rites qu'on veut, s'il n'y a pas cette relation personnelle, interpersonnelle avec le Christ, hein, il ne se passe à rien dans notre vie. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors, après ça, il y a deux façons en fait, de fonctionner dans cette. Si on a compris ça, si on a compris que c'est en me rapprochant du Christ, si j'ai compris que c'est en me rapprochant du Christ, en criant vers le Christ, en construisant une relation d'amitié, d'amour mutuel, une relation interpersonnelle, une relation d'homme à homme pratiquement. Ben, vous savez, si Dieu s'est fait homme, c'est pour quelque chose. Que Dieu s'est fait homme aussi pour, enfin, entre autres, pour que nous ayons la possibilité de nous adresser à lui de façon humaine. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très fondamental. Le chrétien est celui qui parle humainement à Dieu, parce qu'il parle humainement à Dieu qui s'est fait homme. Donc, effectivement, notre relation avec le Christ, c'est une relation d'homme à homme, en quelque sorte, bien que ce soit une personne divine, bien d'accord avec vous, j'accepte vos objections théologiques. Mais c'est quand même, comme dans l'Évangile, les gens, vous savez, les gens qui rencontraient le Christ à Capernaum, en Galilée, ils ne se posaient pas la question de savoir s'il y avait des dieux ou autre, mais ils avaient devant eux quelqu'un, ils avaient confiance, ils aimaient, qui les rendait vivants, quand ils sentaient la chaleur, quand ils sentaient l'amour, et ils se confiaient à lui comme des à corps perdu, vous voyez. Donc ça, c'est... Donc cette façon de faire, donc de vraiment d'avoir une relation interpersonnelle avec le Christ, sans s'occuper du reste, Saint Porphyre, enfin, les autres, disent que en fait, ça prend en fait deux formes, qui sont les formes de la prière habituelle, que vous connaissez par cœur. Quelles sont les formes de la prière? Je trouve qu'il n'y en a finalement que deux. C'est soit la supplication, soit la louange. Et nous, les fermages dans nos églises orthodoxes, on pratique quand même la prière de supplication, et puis c'est de moi, là on n'arrête pas. Mais la prière de la louange, on ne le suit pas tellement. Alors en fait, il faut vraiment arriver à mettre un peu de louange dans notre vie, c'est-à-dire à glorifier le Christ en toutes circonstances. Donc, gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi, même si je suis dernier des pécheurs, même si je suis envahi par ce péché qui parasite l'homme intérieur, c'est quand même en glorifiant le Christ que je vais commencer à sortir de la mort, en fait, parce que cette louange, elle construit une relation. En fait, c'est simple, il s'agit de construire une relation. Au début, je n'ai qu'une relation. Le but, ce n'est pas une relation, mais une relation en soi, c'est tout à fait sans avenir. Ce qui est l'avenir, c'est la communion. Alors donc, c'est quand on peut d'avoir une relation, ensuite une communion, et d'avoir avec le Christ une relation extrêmement intime, qui fait qu'à chaque moment de notre journée, chaque fois que les pensées se présentent, on se tourne vers lui. Et ça ne sert à rien d'essayer de s'opposer à ses pensées, tu n'y arriveras pas. Dans aucun jour, tu seras le même, tu n'auras toujours pas changé. La seule façon de changer, c'est qu'à chaque pensée qui se présente, tu téléphones au Christ en disant « Allô, au secours !» Et c'est cette... comme on voit les gens dans l'Évangile, « Au secours, Saint-Pierre, il est ça, dans le bateau, au secours, Seigneur, nous périssons !» C'est des exemples extraordinaires. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans l'Évangile. Qui disent « Au secours, viens vite, mon Dieu !» Donc cette façon-là, et donc, ils construisent une relation dans laquelle, si vous voulez, ils s'investissent complètement parce qu'ils savent que c'est pour eux une question de vie ou de mort. Donc le haut secours, la prière de supplication, la prière de... Oui, de supplication, qu'on a partout dans l'Église, disons que je vais expliquer pourquoi, parce qu'on ne peut pas toujours dire la même chose. Enfin, globalement, le haut secours, fait naître ou organise, ou développe hein, cette relation avec le Christ, qui est un ami, c'est quelqu'un qui est présent quand même. Quand tu parles à quelqu'un qui est présent dans ta vie, par le Saint-Esprit, et tu dis Seigneur, aide-moi. Chaque fois que je vois cette pensée se présenter. Et l'autre façon de prier, donc, est la louange, c'est la même chose. C'est opposer, si je peux dire, aux pensées de péché et aux passions, opposer non pas notre volonté, non pas notre force, etc. Ça ne sert à rien, on perd son temps, et opposer la louange. La louange, c'est très. Alors, ce qui est intéressant, c'est Saint Porphyre, dans ce livre que j'ai apporté. Donc pour moi, Saint Porphyre, c'est un peu la référence, et ça s'appelle Vie et Parole de Saint Porphyre, c'est dans L'âge d'homme, en 2002, quand on a publié ça. Alors il dit une chose extrêmement intéressante, après avoir dit ce que j'essaie de dire de sa part, c'est-à-dire que c'est du temps perdu de lutter contre le péché, qu'on va lutter, comme dit saint Jean, pas la masse quand même aussi, on va lutter plutôt pour être avec le Christ. C'est une lutte positive. On ne lutte pas bon. Le bon combat spirituel, ce n'est pas un combat contre, c'est un combat pour. C'est très simple en fait. Un combat pour être avec le Christ, pour être avec lui, pour l'aimer, pour son. Et à force de vouloir être avec lui, on sent, soit par la louange, soit par la supplication, on sent sa vie qui se développe en nous comme amour, comme chaleur, comme légèreté. La prière de louange, par exemple, c'est vraiment une expérience très intéressante. Parce que quels que soient les ennemis spirituels qui nous entourent, le jugement, la jalousie, le découragement, la vanité, enfin, la liste de nos ennemis incorporels, quels qu'ils soient, c'est cette prière de louange qui nous connecte à la verticalité de notre vie aussi, mais qui nous arrache en fait à nos ennemis, un peu comme les enfants dans la fournaise. Ces pauvres garçons, ils étaient trois jeunes gens absolument charmants, et à l'école, tout ça, ils avaient des bons résultats, parce que c'était des très, très bons garçons, et on les a jetés dans la fournaise. Ah, ils n'étaient pas prévus, mais en fait, ils ont survécu dans la fournaise. Comment? C'est la septième ode des canons. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils louaient Dieu. Ils louaient, bénissaient le Seigneur. C'est grâce à l'homme. C'est la septième ode de tous les canons. Ces trois garçons, ils ont échappé à la fournaise. C'était les fourneaux, il y avait des lions aussi, je ne sais plus ce qu'il y avait. Enfin, c'était pas extrêmement. Ils n'étaient pas très bien partis. Ils étaient menacés de mort quand même. Ils ont échappé à cette menace de mort par la louange, par la loi. Alors, tantôt, Père Farfir parle beaucoup de ça. Donc, c'est une ascèse qui est un combat spirituel, un combat pour être avec le Christ et non pas contre. Les enfants dans la fournaise avec les lions, ils ne se sont pas battus avec les lions, c'était du temps perdu. Les lions, c'est un animal qui se défend assez bien, donc ils ont laissé tomber. Ils se sont investis dans la louange. Bon, mais donc, Père Porphyre, j'ai une chose en plus que je voulais vous dire. Il parle du mépris. Alors, c'est très intéressant, parce qu'il dit au pauvre, ces pensées qui viennent, le jugement, la jalousie, pourquoi, la chaussure, la possession, l'argent, enfin, tout ce qui nous harcèle, que l'être humain est harcelé par des pensées inutiles, qui ne sont pas uniquement psychologiques, à la différence de ce qu'il dit bêtement, qui sont vraiment d'origine incorporelle et que les démons utilisent pour nous perdre, nous empêcher d'être sauvés. Parce que le fonctionnement du monde diabolique, si vous voulez, c'est de détourner, depuis le paradis, hein, c'est de détourner l'être humain de sa communion avec Dieu, de l'attirer vers lui, pour le, comme dit Saint-Pierre, pour le dévorer. En fait, comment est-ce qu'on voit dans les films, vous savez, on regarde peut-être des vidéos sur les animaux sauvages, on voit comment ça se passe, quand des loups, des lions, même des hyènes font ça aussi, veulent se nourrir, ils essayent de tirer une bête du troupeau, et là, terminé, ça ne dure pas très longtemps, même les buffles qui se défendent bien, pourtant, ils arrivent à les dévorer. Donc, c'est un peu pareil. Nous sommes harcelés par des pensées qui sont des pensées de mort, et que faire? Donc, crier vers le Christ, s'approcher du Christ de tout son cœur, ça c'est vraiment. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, on peut vivre comme ça en respirant, mais on crée une amitié avec le Christ, on vit avec le Christ. C'est le Christ devient vraiment le compagnon de notre vie, c'est étonnant. Et donc, l'autre chose que dit Saint-Porphyre, c'est le mépris. C'est-à-dire que ces pensées qui viennent, ces ennemis, on ne les regarde même pas. Laisse tomber. Traite-les par le mépris. Et c'est vraiment, moi, je l'avoue, ça m'aide beaucoup dans mon travail de souvent. Nous attachons beaucoup d'importance à nos ennemis intérieurs et nous leur donnons beaucoup d'importance parce qu'ils nous font beaucoup, ça nous fait beaucoup souffrir. Ça nous fait souffrir d'être bouffés par des pensées qui sont des pensées de mort. Moi, très bien que c'est absolument le contraire de ce que vous devez être en tant que chrétien. Mais c'est pas bien, traite ça par le mépris. Bien tombé, c'est comme quelqu'un qui marcherait dans une forêt qui serait sollicité par des ennemis ou des demandes de l'argent et qui continuerait son chemin dans la forêt comme ça en regardant devant lui et en regardant ni à gauche ni à droite et en s'occupant pas. Donc vous avez dit, mais quel rapport avec la confession? Alors c'est vrai que dans la confession, on ne traite pas le péché par le mépris puisqu'on bien reconnaître quand même. Mais ce qu'on vient de faire dans la confession, ce n'est pas pour donner de l'importance au péché, c'est simplement pour reconnaître les cas, les situations dans lesquelles on est tombé, dans les cas où on a, le voulant ou ne le voulant pas, parce que les deux existent, donc le cas où nous avons été donc finalement pris par ces ennemis intérieurs. Donc, si je suis tombé dans le jugement, hein, je vais compenser le jugement, parce que c'est quelque chose que je ne veux pas, mais bêtement, par inattention ou par complicité, c'est quelquefois ça me fait super plaisir de dire du mal de mon prochain, donc résister au plaisir de dire du mal d'autrui, c'est très difficile. Donc je confesse ça. Je confesse ça que, le voulant ou ne le voulant pas, je suis tombé dans telle chose. Ça, c'est la confession. Mais ça fait confier par l'autre chose. Il parle de l'état général dans notre semaine, dans notre journée, toutes ces pensées qui viennent. Ne les écoutons pas, on ne dialogue pas, on ne discute pas avec Satan, on ne discute pas avec le mal, pas de discussion, rien du tout. Nous, on reste tendus vers le Christ, vers son amour, vers son visage, vers sa joie, et on n'est pas tendu de manière mentale, c'est pas en pensant à Dieu. Nous, on ne pense pas à Dieu, qu'est-ce que vous faites les chrétiens? Vous ne pensez pas à Dieu? Mais nous, on ne pense jamais à Dieu. Vous ne pensez pas à Dieu? Mais nous, on ne pense pas à Dieu, mes amis. On lui parle. Quelqu'un qui me disait ça, je crois, on parlait de la prière, je dis alors, ça va, vous en sortez, oh oui, bon, c'est bien, un truc, je pense à Dieu tout le temps, là j'ai mon ami, vous ne priez pas. Il est très déçu, il pensait m'avoir annoncé une bonne nouvelle, moi je pensais à Dieu tout le temps. Je dis, je pense à quelqu'un, cette personne n'est pas là, ou à un mort, éventuellement, on pense beaucoup aux morts, ou on pense aux absents, mais si je pense à Dieu, je ne peux pas commencer à penser à Dieu comme un absent, un il, un cadavre. Non, on ne pense pas à Dieu, on ne parle. La vie chrétienne, c'est un dialogue, c'est une conversation avec Dieu continuellement, et Dieu verbe, parce que, on peut parler au Père, bien sûr, il n'y a pas de raison, le pauvre Père, pourquoi il est tombé. On parle au Saint-Esprit, bien entendu, on dit roi céleste, consolateur, etc. Et quand même, dans l'ensemble, on parle plutôt au Père, parce que lui, il est la parole par excellence, on parle à celui qui parle. On parle à celui qui est parole par, pas par nature, mais en tant que personne. Voilà. Il a la parole en personne du Père. Donc c'est vraiment au Christ qu'on parle, mais on lui parle, on ne pense pas à lui. Bon, on peut penser à lui si vous voulez, c'est pas interdit, mais ça ne sert pas à grand-chose. C'est pas en pensant au Christ qu'on va sortir du péché, c'est en lui parlant, en lui disant qu'il le glorifiant ou le suppliant, et donc du coup en méprisant, en traitant par le mépris les autres, enfin tout ce qui est hétérogène. Vous avez lu, vous lisez les psaumes tous les jours, et le premier psaume dans l'exapsalme, c'est pourquoi, on y pose la question de la vie, pourquoi mes ennemis se sont-ils multipliés? C'est le premier psaume de l'exapsalme qu'on lit tout le temps au matin. Alors on lit ça, on va s'en penser, mais de quoi est-ce qu'il parle? De quoi est-ce qu'il parle? Il dit, dans un autre psaume, il dit, je suis entouré comme des chiens qui m'entourent, etc. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Mais il parle de ça. Il parle de ces ennemis incorporels hein, qui, effectivement, se déchaînent en fait, contre la humanité. Pourquoi se perdre d'illusion si le monde est ce qu'il est, et il n'est pas en très bon état, notre pauvre monde? C'est parce qu'effectivement, ces pensées démoniaques, destructrices, ces pensées de division, ces pensées de jugement, ces pensées de pouvoir aussi. Comment avoir du pouvoir sur autrui? C'est quelque chose de grisant. Le pouvoir, la vanité, le jugement, la convoitise, la possession, l'amour de l'argent, etc. Ben, c'est ça qui bouffe le monde. C'est ça qui détruit le monde. C'est ça qui fait que le monde est ce qu'il est. Toutes les guerres qu'on a sur la Terre viennent d'un problème de ce genre-là. Vous voyez. Et si les personnes qui ont une responsabilité dans la société ou dans l'Église ou ailleurs avait vraiment une connaissance du combat spirituel, ce serait très très différent, vous voyez. Ce serait très très différent. Imaginez un pays comme la France, on va parler de la France parce que c'est le pays où on est, un pays comme la France où les gens du gouvernement se confesseraient chaque semaine. Vous voyez, non mais c'est ça le sujet, vous voyez. Parce que quelqu'un. Bon. Parmi les personnes qui ont le pouvoir dans le monde, pouvoir abusif ou pouvoir toléré, la plupart de ces personnes-là ont été chrétiens à un moment de leur vie, ils ont été baptisés, ils ont une petite éducation religieuse, etc. Mais on les a vus, on voit les photos d'un tel faisant sa première communion dans l'église catholique, on voit la photo d'un autre, un tel allant à l'église avec sa grand-mère en Russie, etc. Donc c'était des bons petits garçons. Mais à un moment de leur vie, ils ont cessé complètement, c'est pas d'aller à l'église, si vous voulez, mais ils ont certainement cessé, ou bien ils n'ont pas commencé même à se confesser, à confesser leurs péchés. Ils n'ont pas lutté pour que le mal ne triomphe pas. Au contraire, ils ont trouvé que c'était bien, parce qu'il y avait des forces. Le pacte avec le diable, ça donne de la force, je vais commencer à avoir du pouvoir sur les autres, et puis ceux qui me résistent, je vais les réduire, enfin, je vais me débrouiller, je vais disparaître un tel. Ça se fait beaucoup dans certains milieux politiques, on fait disparaître les gens. Et on parle plus d'un tel, tiens, oh, il est mort, bon. Et donc, on fait disparaître ceux qui nous résistent, on a toujours fait ça. C'est très vieux, vous lisez l'histoire romaine, l'histoire de tous les pays. Même en France, à l'époque mérovingienne, dès qu'il y avait quelqu'un qui résistait au pouvoir, quick, il disparaissait assez rapidement. C'est pas forcément d'un passeport accidentel, c'était quelquefois beaucoup plus direct que ça. Par exemple, l'évêque de Rouen a été assassiné en pleine église par Frédégonde, qui était la reine, la femme de l'empereur mérovingien de l'époque. Voilà, c'est tout, c'est ce qui se font. Mais donc on crée un monde qui est un monde complètement diabolique, en fait. C'est terrible. Alors que le monde pourrait être un monde très différent. Alors nous, les chrétiens, justement, parce qu'on a compris ça, on a compris qu'on peut s'approcher du Christ, on a compris qu'on peut sanctifier notre vie, on a compris qu'on peut christifier notre vie, on a compris qu'on peut vivre vraiment autrement. Et donc on essaye ça, oui. Et c'est pour ça que cette question que vous posiez, bien sûr, surtout au milieu du carême, ça fait 3 semaines, au bout de 3 semaines, j'arrive au dimanche de la croix, aucun changement. Et ça encore, c'est une bonne nouvelle, et ceci, c'est pire qu'avant. Alors ça, c'est encore... Parce que si, il y a quelque chose qui se développe, si tu ne l'arraches pas, il va se développer. Et donc effectivement, au milieu du carême, on se dit, mais deuxième partie du carême, on va essayer de s'en sortir un petit peu. Et donc je crois que les conseils de Père Porphyre, je m'arrête là, et c'est 3 conseils très intéressants. Donc bon, le premier conseil, c'est effectivement de ne pas lutter contre, mais de lutter pour et avec le Christ. Et ce conseil de lutter pour et avec le Christ est divisé en deux. On lutte pour être avec le Christ soit par une supplication, soit par la louange. Et le dernier enseignement qu'il donne, comme je vous l'ai dit, c'est effectivement de traiter le péché par le mépris. Et c'est très fort. Hein. En fait, c'est ça, les saints, à commencer par le Christ, hein, si vous voulez, ils vivent ce qu'ils ont à vivre, ils vivent leur relation avec Dieu sereinement. Ils sont attaqués jusqu'à la fin. Un ancien dans Bébé au désir, c'est pas Saint Antoine, mais c'est un autre qui disait ça, il disait, jusqu'à la fin de ta vie, tu seras harcelé par les pensées. Mais elles peuvent être autour, elles peuvent être périphériques. Saint-Jean Climac parle de ça aussi, on va fêter bientôt. Saint-Jean Climac dit ça, il dit, tu sais, les pensées, le problème c'est qu'on ne les voit pas venir. Alors ça, c'est donc une bonne excuse, je ne l'ai pas vu venir. Je ne l'ai pas vu venir, ça va tellement vite. Penser de jugement, penser de jugement, je ne le vois pas. Et grâce à la confession, on finit par voir un petit peu. Alors au début, on l'a arrivé de là, mais c'est trop tard. Hop, on a perdu. Et c'est comme dans les jeux vidéo, où il s'agit de détruire les ennemis. Mais c'est une métaphore, c'est intéressant. Hein. Alors au début, les pensées, par exemple, la pensée de jugement, elle vient comme ça, ça va trop vite. J'ai tellement l'habitude de juger que je suis identifié avec le jugement. Si je ne me confesse pas, je reste dans cette identification. Si je me confesse, je déteste cette pensée, je dis, ce n'est pas moi. Ça m'est arrivé, je l'ai fait, je suis envahi par ça, mais je ne le veux pas, ce n'est pas moi, je me distingue de ça. Je déteste au sens juridique cette pensée. Donc je la mets, disons, à une certaine distance. Bon, alors du coup, je vais peut-être la voir arriver. Alors vraiment, au début, je pense qu'on ne voit rien arriver du tout. Après ça, on le voit arriver un petit peu, mais c'est trop tard. Parce que dès qu'on a été pris, le plaisir, c'est très très important. Très important, là. Comme je disais à l'instant, la jouissance qu'a l'être humain à dire du mal d'autrui, c'était un plaisir très 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 fort. Donc il faut du courage pour se refuser cette jouissance-là, qui est une jouissance satanique. Hein. Mais il faut un peu de courage. Vous dites non, je ne me refuse pas, j'en prends pas en ce moment. C'est le carême, j'en prends pas, merci. Et puis, comme disait notre climat, on va arriver de plus en plus loin. Et après ça, dès qu'on est assez vite, je vois ça avec les amis à qui je parle, il va arriver d'assez loin quand même. Les passions qui les menacent, les ennemis spirituels dont parle les psaumes, ils vont arriver de très loin. Et on les voit arriver avec leurs gros sabots. On dit voilà, ça, je vois arriver. le jugement, je vois arriver la jalousie, je vois arriver la convoitise, je vois arriver l'amour du pouvoir ou ces passions dont parle saint Ephrem, le Syrien. On les voit arriver de loin. Et plus on les voit arriver de loin, plus on a la possibilité, bien entendu, de se tourner, non pas de leur dire non, pour revenir à ce que dit saint Porphyre, mais se tourner immédiatement vers le Christ. Je vois arriver tel ennemi incorporel, et bien tout de suite, je vois arriver, hop, je me tourne vers le Christ immédiatement, je dis, au secours, aide-moi, gloire à toi, oui. D'abord, c'est un... Oui, c'est un réflexe quand même à avoir. Et si l'on ne le fait pas, cette pensée, elle va s'approcher, et plus elle va être proche, plus elle va nous contaminer, et à un moment, on n'est plus capable de dire non. On rencontre ce phénomène-là dans tous les cas d'addiction, en fait. Je parle, si on pense à la question de l'alcool, c'est très intéressant. Si le verre est très loin, oh là, il y a un verre là-bas, mais je me tourne à l'écrit, je ne bois pas. Si le verre est un peu plus proche, ça devient difficile. Mais quand il est sur la table, tu sens l'odeur du vin, etc., hop, tu le prends, tu vois. Donc, c'est la proximité des tentations, si vous voulez, des ennemis incorporels, proximité compte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a un espace, nous vivons dans un monde qui est un monde qui se caractérise par l'espace et par le temps. Donc, il y a des notions de vitesse. Par exemple, la vitesse avec laquelle tu te tournes vers le Christ, ça c'est absolument en ta faveur. Si tu le fais trop lentement, tu vas perdre du temps parce que ton ennemi est beaucoup plus rapide que toi, parce qu'il est totalement incorporel. Il n'y a rien de plus rapide qu'un ange, parce qu'ils sont incorporels, donc ils sont... Je ne sais pas comment dire, c'est une vitesse, la vitesse de la lumière à peu près, c'est impressionnant. Donc plus l'être humain se tourne vite vers le Christ, plus il va effectivement pouvoir mépriser, ignorer, cette sollicitation, oui. Et donc la vitesse apporte beaucoup, et l'espace, plus cette pensée est loin, plus il la voit arriver de loin, plus il a la possibilité de se tourner immédiatement aussi vers le Christ. Et donc ces pensées, à ce moment-là, et ces sollicitations, les passions, ce sont les formes pathologiques de la vie intérieure, quand les pensées ont pris corps, en quelque sorte, en nous. Alors, ça devient une passion. Au début, c'est pas une passion, c'est une pensée, simplement, c'est une suggestion, c'est une... Les pères appellent ça des pensées, mais entre guillemets, ce n'est pas des pensées réflexives, des logis, parce que ce sont des insinuations, des suggestions, si vous voulez, des suggestions incorporelles. Et quand elles sont au stade incorporel, elles sont relativement inoffensives. Mais si on n'y prend pas garde, si on ne tourne pas vers le Christ, etc., ces suggestions prennent une forme de corporealité. Par l'imagination, par exemple par la représentation, et se transforme en passion. Une passion, qu'est-ce qu'une passion? C'est quand tu te réveilles la nuit d'aller casser la figure à ton voisin. Donc ça, c'est une passion. Au début, ce n'était qu'une suggestion, parce que c'est les voisins, ils sont bien connus, c'est ce qu'ils font, les voisins. Ils garent leur voiture devant ma sortie de garage. Alors, quand même, okay. Ça, c'est l'ennemi type. Alors, au début, j'y pense. Mais ça reste relativement, c'est encore incorporel. Et quand je commence à me représenter ce que je vais lui faire, je vais crever les pneus de ses voitures, appeler la police, ou verser de l'huile de vidange sur son pare-brise, il y a différentes façons de faire. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils dans ce domaine-là, mais enfin, ça c'est du domaine, c'est quand la pensée de jugement et de vengeance se transforme progressivement en action. Et le jour où on le voit, il ne survit pas. Il y a un exemple très intéressant de ça, c'est Dostoïevski. Dostoïevski est quelqu'un très intelligent, très profond et très orthodoxe. C'est un des meilleurs écrivains orthodoxes de notre temps, mais il a exprimé la théologie orthodoxe à travers la forme romanesque. Alors du coup, les gens ne prennent pas très au sérieux, parce que les gens ne sont pas très au courant aussi. Et il décrit ça, je crois que c'est dans Crime et Châtiment, il décrit comment Raskolnikov, qui est le personnage de ce roman, comment Raskolnikov finit par assassiner une petite vieille dont il avait vu qu'elle avait de l'argent dans un tiroir. Il avait des élèves pour pouvoir rendre service, mais il a vu qu'il avait de l'argent dans un tiroir. Donc, Dostoïevski analyse bien comment ça s'est passé. D'abord, il a eu la suggestion, il dit, tiens, je pourrais peut-être lui piquer son argent, au fond. Une idée comme ça qui est passée, une pensée qui est passée comme ça, mais qui était encore tout à fait incorporelle, pratiquement inoffensive. Qu'il aurait pu, s'il avait eu l'expérience, s'il avait lu Père Porphyre, s'il avait lu Saint Basile, s'il avait lu Saint Croix Panamas, il aurait pu tourner tout de suite vers le Christ en disant pas de ça. Pas de ça, c'est toi que je veux, c'est toi que j'aime, c'est toi mon Dieu, c'est toi mon... Mais il ne l'a pas fait. Et comme il ne l'a pas fait, cette pensée a commencé à se... Vous savez, c'est comme les virus, ça s'implante, ou les... Il y a une autre bête aussi qui est intéressante, les tiques. Vous avez vu les tiques? Les tiques, c'est tout petit quand vous avez des chiens, des chats, c'est petit comme ça. Mais ils s'implantent, ils mettent des espèces de racines dans la peau de l'animal, et après ça, ils gonflent, et les tiques, ils viennent comme ça, hein, alors qu'au début, ils étaient microscopiques. Le péché, c'est un peu la même chose. C'est une suggestion incorporelle, et qui s'implante, hein, et qui finit par se nourrir de notre organisme, et grossir, et devenir une vraie pathologie. C'est comme ça que naissent les passions. Donc, dans l'histoire de Raskolnikov, c'est ce qui se passe. Cette suggestion, le mot pensée en français, c'est un mot qui veut dire autre chose. Cette suggestion, cette insinuation diabolique, hein, mais complètement gratuite, hein, parce que une idée qui lui passait par la tête, une idée idiote, hein, s'est implantée parce qu'il a commencé à se représenter. D'abord, au lieu de se tourner vers le Christ pour que cette idée n'ait pas de prise sur lui, il ne l'a pas fait, donc cette idée a continué à faire son petit chemin comme un virus, comme un microbe, comme une tique. Et a engendré chez lui des formes de représentation. Il s'est vu, il s'est fait un film intérieur, comme vous connaissez ça aussi, c'est comme la personne qui veut boire, il se voit boire, ou il sent, à l'avance, il sent déjà le goût de l'alcool avant même d'avoir vu. Il y a des formes de représentation qui sont très intéressantes, c'est pas pour voir comment on fonctionne. Donc il s'est représenté. Et alors il a revu l'endroit où il y avait le petit meuble, le tiroir dans lequel il y avait l'argent, qui s'est vu entrer, bousculer cette petite vieille et s'emparer de l'argent. Donc, c'est fait un film en quelque sorte. Les passions, c'est toujours ça, on finit par se faire un film. Que ce soit dans la passion amoureuse, que ce soit dans la passion politique, que ce soit dans la passion de l'argent, à un moment, on se fait un film intérieur et le fait de se faire un film, c'est ça qui nous permet d'agir. Parce qu'on a une représentation de l'action et du coup, notre action n'est simplement après ça qu'une mise en pratique. C'est ce qu'on s'est bien répété à l'avance, hein, sur le plan de l'imagination. L'imagination est très très importante. Il n'y a pratiquement pas d'action dans le monde sans représentation. Même quelqu'un qui nous parlait, qui est mécanicien de camion, bah, si tu veux, il a une image mentale de son camion, donc une image mentale de son moteur, autrement il ne fera rien. Non, il est incapable de le démonter, de le remonter après. Oui. Donc, le péché, c'est la même chose. Il y a une représentation mentale, mais dans lequel l'imagination compte pour beaucoup, et finalement dans le roman de Dostoïevski, Raskolnikov entre chez cette petite dame, il la tue, il prend son argent, et la démonstration est faite. Bon. Voilà, donc, si vous voulez, c'est pour dire que c'est quand même assez important, parce que si nous ne faisons pas un choix de nous tourner vers le Christ, et de crier vers lui, ou de le glorifier de tous nos poumons, en fait, à un moment ou à un autre, nous sommes tués, la mort nous tue. Vous voyez, la mort nous tue, et l'esprit de la mort, l'ange de la mort, qui est Satan, qu'on connaît depuis le paradis, et lui, il gagne quand même. Et nous finissons d'abord être des chrétiens, aller tous les dimanches, inscrits dans la liste de la paroisse, et nous sommes des morts vivants souvent. Vous voyez, c'est-à-dire que nous vivons avec des éléments en nous, des péchés en nous, qui se nourrissent de nous, en fait. Vous voyez. Ce qui est terrible avec le péché et les passions, c'est que ça se nourrit d'être humain, exactement comme les parasites, comme la tique que je citais. Pourquoi est-ce qu'une puce pique? Pourquoi est-ce qu'un moustique pique? Pourquoi est-ce qu'une tique pique? C'est pour se nourrir, mes amis. Il faut bien qu'elle vive, c'est pour toute belle. Bien, les pensées diaboliques font de même, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas. Les démons ne peuvent pas agir dans le monde sans nous. Saint Isaac le Syrien qui dit ça, c'est très intéressant. Il dit le malin ne peut rien contre toi sans toi. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une coopération, il faut que la pensée diabolique puisse s'implanter, commencer à se nourrir, et que je la laisse se nourrir au lieu de la repérer. Et ça, en fait, ça crée une nécrose. Le péché, c'est une nécrose de l'homme intérieur, et c'est une nécrose de l'homme extérieur aussi, parce que le péché a des conséquences psychosomatique grave, et il y a des conséquences sociales. La société, je le répète, elle est comme ça parce qu'on ne lutte pas pour sortir du péché. Au contraire, on vit avec, parce que ça rapporte, c'est grâce. Il faut discuter avec des gens qui ont le pouvoir, c'est intéressant. Discuter avec des ministres, discuter avec... On peut être trop précis, on peut être désagréable, si vous voulez, mais discuter avec des gens qui ont un minimum de pouvoir tentations sont extraordinaires. Et dans l'Église, par exemple, c'est très très grave. C'est très difficile. Nous, les prêtres, par exemple, c'est très difficile de faire attention à nous-mêmes, disons, qu'on soit évêque, qu'on soit prêtre, parce qu'on est dans une position, il y a des tentations énormes de vanité, de pouvoir, c'est principalement ça, la vanité, on dit, oh, comme je suis bien, comme je prêche bien, comme je célèbre bien, et la tentation de pouvoir sur les fidèles, pouvoir clérical sur les fidèles, c'est quand même une caractéristique de certaines églises, de toutes les églises d'ailleurs, je dirais que ça, vraiment, c'est 15 partout. Un des problèmes, si vous voulez, de l'Église, de l'ecclésiologie chrétienne, c'est justement les passions, principalement la passion du pouvoir, qui est catastrophique, et qui fait que les communautés, au lieu d'être vivants, sont des funérarium. Parce qu'en fait, le péché du fini paraît tellement important que c'est la mort qui s'installe. Alors ça continue comme les animaux qui peuvent fonctionner même mécaniquement quand ils ont plus de tête. Les canards, moi, c'est vrai que les canards font ça. Tu leur coupes la tête, ils continuent à courir et à nager. C'est extraordinaire, hein? Donc effectivement, vous avez des organismes ecclésiaux, des paroisses peut-être, ou des familles chrétiennes, qui continuent à fonctionner comme ça chrétiennement, de manière mécanique, parce qu'on les a remontés à un moment, donc ils continuent à tourner, mais qui sont déjà complètement amputés de la dimension de foi, oui. Alors, je parle de manière un peu tranchée, mais quand il s'agit de vie ou de mort, on ne tourne pas autour du pot, oui. Et là, le combat spirituel dont on parle ici, c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas un passe-temps des chrétiens qui disent « Ah ben voilà, on va mener un peu le combat spirituel, ça va faire un peu, on va faire comme Jean Climat, on va imiter machin, etc. » Mais non, ce n'est pas un joujou. La vie spirituelle n'est pas une option, ce n'est pas un joujou. C'est pas accessoire, c'est l'essentiel, c'est le combat pour la vie ou la mort. Parce que pensons à la mort. Moi, je pense beaucoup à ma mort parce que je me rapproche de plus en plus, ou elle s'approche de moi, je ne sais pas qui s'approche de l'autre, donc on va finir par se rencontrer. Je pense beaucoup à ma mort, mais il y a deux choses qui m'inquiètent. J'y pensais pendant la liturgie, il y a deux points qui m'inquiètent quand je pense à ma mort. C'est d'une part, effectivement, de me présenter devant Dieu avec des péchés non confessés. Et de pouvoir être pardonné, c'est-à-dire de ne pas me justifier devant lui, d'avoir pris l'habitude de la confession pendant toute ma vie, avoir pris l'habitude de ne pas avoir raison. Ça, c'est vraiment, heureusement, j'ai appris ça dans l'Église orthodoxe, qui est pour moi le salut. L'Église orthodoxe, c'est l'Église, hein, de ma propre expérience. Donc, je prie Dieu de me rendre capable de ne jamais me justifier devant lui quand je le rencontrerai au dernier jugement. Mais ça, c'est une chose, pour moi, c'est presque réglé. Parce que d'abord, j'ai une grande confiance dans la miséricorde de Dieu, et puis j'ai pris des bonnes habitudes de ce côté-là, donc ça devrait aller. Mais il y a une autre chose qui m'inquiète énormément, je vous le dis, on est vraiment entre nous, ça ne sortira pas d'ici. Le fait que je puisse pas seulement mourir avec des péchés non pardonnés, mais vivre et mourir avec des passions non extirpées, des passions dont je ne me suis pas libéré. Si je pense au jugement, pour revenir sur le Romain, parce que le jugement c'est très commode, tout le monde voit de quoi on parle. Ça c'est vraiment, personne va dire non, je comprends pas, dites-moi ce que c'est, docteur. Bon, imaginez que je meure tout à l'heure ou demain, parce qu'on ne sait pas, avec les perturbations dans la voie ferrée, et que je sois encore prisonnier du jugement d'autrui, et c'est terrible, vous voyez, parce que de l'autre côté, je vais me trouver tel que je suis, c'est-à-dire je serai tourmenté par les passions avec lesquelles je serai parti, je serai tourmenté par les passions que je n'ai pas pu assouvir, ces gens que je voulais tuer, dont je voulais me venger, je n'ai pas pu m'en venger, mais le désir de vengeance me torturera, c'est beaucoup plus grave même que la question, parce que Dieu va me pardonner tout, c'est pas Dieu le problème, vous voyez, c'est que même pardonné par Dieu, Dieu pardonne, c'est simple, hein, Dieu pardonne toujours tout à tout le monde, ça c'est réglé, Dieu est pardon par nature, si je peux dire. Donc c'est pas Dieu le problème. Mais si, étant pardonné, je suis moi-même encore addict de mes passions, Dieu, il a beau être bon, miséricordieux, tout ce que vous voulez, c'est moi qui suis attaché à ces choses-là. Vous voyez, c'est pas lui le problème, le pauvre Dieu. Et donc c'est très très important. Donc tout ce qui est dit, là, ce dont on essaie de dire, non, pardon, c'est un peu maladroit ce que je dis, mais tout ce qu'on essaie de partager ici, c'est Moi, c'est urgent, si vous voulez. C'est vraiment urgent pour le bien de la communauté, le bien de la famille, le bien de la société, le bien de la création elle-même tout entière. Si l'homme tient. Tu sais, dans le psaume 104, on dit que les pécheurs disparaissent de la terre. Vous lisez le psaume 104 ou 103 à Vêpres. Quand j'arrive à ce verset-là, je lis ça, que les pécheurs disparaissent de la surface de la terre. Ce n'est pas les autres, les pécheurs. Bon, ils vont disparaître. Non, c'est moi. Parce que si, effectivement, je fais ce travail-là, excusez-moi mes amis, ça fera un pécheur de moins quand même sur la terre. Donc c'est tout, c'est gagné. C'est du bien que je fais au monde, c'est du bien que je fais à la création, c'est du bien que je fais à l'Église. Et donc c'est vraiment très très important. Et du bien que je fais à moi-même, évidemment, pouvoir entrer. C'est la mort, c'est vraiment très important. Il faut penser à la mort, c'est très important. Celui qui ne pense pas à la mort, ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Pensez à la mort. Alors, je pense à la mort et que je puisse passer cette porte-là librement, vous voyez, librement, sans être enchaîné par quoi que ce soit, sans être dépendant de quoi que ce soit, sans être intoxiqué par quoi que ce soit, sans être addict de quoi que ce soit, et donc en ayant pris ces bonnes habitudes dont je vous parlais, et tout le temps tourné vers le Christ. Notre vie, mes amis, elle est christocentrique. Il n'y a pas de... Moi, j'ai des amis... C'est impressionnant quand même, des chrétiens, on en parle un peu, on se rend compte qu'ils sont complètement spiritualistes, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont spiritualistes, ils s'intéressent à la spiritualité. Mais ça veut rien, le mot spiritualité, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien, pour un chrétien, ça ne veut rien dire du tout. Nous, nous vivons par la foi. Ce n'est pas la spiritualité, ça, nous vivons par la foi, par une relation avec quelqu'un en qui nous mettons notre confiance. Oui. Je me rappelle, c'était Jean-François Colosimo, je ne sais pas si vous qui c'est, un écrivain assez brillant, on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais il est assez brillant, il est assez bon quand même. Qui est actuellement directeur de l'édition du CERF, qui est professeur à l'Institut orthodoxe, qui est professeur à l'Institut Saint-Serge. Et il a été interviewé, comme on l'est tous, à radio, télévision, etc., dans M. Colosimo. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la spiritualité chrétienne? Il avait répondu assez grossièrement. Il a dit, bon, la spiritualité, mais on s'en fout. Alors, ça avait choqué les gens. Il dit, nous, on est là pour parler de la foi. Et ça m'est toujours resté. Bon, c'était grossier, c'était vulgaire comme comportement, je le reconnais. N'empêche que ça m'est resté. Et c'est vrai. Vous voyez, il faut faire attention. Regardons un peu comment nous fonctionnons du point de vue chrétien. Est-ce que vraiment notre vie est christocentrique, hein? Christocentrique, vous voyez, centrée sur le Christ, tout le temps. L'iconité, la croix, l'évangile. Mais écoutez, j'étais l'autre jour, ça m'arrive assez souvent. Quand on va bénir les maisons au moment de la théophanie, alors on arrive dans une famille, on dit bon, alors on va faire un petit autel pour bénir. Alors on met une table, mais qu'est-ce qu'on met sur la table? Je ne sais pas, on met une lumière, on va chercher une bougie à la cuisine, on met une lumière. Après ça, on va mettre une icône. Peut-être dans la chambre du gamin, peut-être une icône. Il va dans la chambre du gamin, il ramène une icône, ce qu'il appelle lui une icône. Bon, alors comment ça, hein? Alors, après ça, on dit, est-ce que vous avez l'évangile? Et les gens disent, l'évangile? Qui est cet évangélier? Je ne vois pas, mais j'ai l'évangile. Non, je ne vois pas. Alors, il va dans sa chambre, je vais le chercher. Il revient avec un livre de prière, Carte de Lugacini. Je dis, mais non, l'évangile. Non, dans des familles, beaucoup de familles chrétiennes, orthodoxes, plus orthodoxes que moi sûrement, qui non seulement ne les lisent pas, jamais, ils n'ont l'évangile, c'est extraordinaire. Mais en plus, ils ne l'ont pas. À la maison, il n'y a pas d'évangile à la maison. Est-ce que vous avez une Bible? Oh, et ils cherchent. Peut-être qu'elle est là sous le lit. Ou... Okay. On a des phénomènes comme ça. Alors, oh, elle est peut-être restée. Ah, va voir donc là-bas. Elle est peut-être là-bas. Donc en fait, la Bible n'existe pas. S'il y en a une, elle traîne dans la maison quelque part, mais personne ne la lit, elle ne sert à rien. Donc vous voyez, ça, c'est ça qui est embêtant. Ce n'est pas votre cas à vous, mais c'est pour dire que le christianisme n'est pas toujours en très bonne forme à cause de ça, parce qu'il n'est pas assez christocentrique, parce qu'on ne lit pas l'évangile, parce que personne n'a lu la Genèse. Quand on dit l'homme est créé pour à l'image, pour arriver à la ressemblance, on dit ah bon, vous croyez, mais c'est intéressant ce que vous avez dit aujourd'hui, l'idée que ça vient de la Bible, que c'est dans la Bible, on ne l'a jamais entendu, on ne l'a jamais vu, oui. Donc il y a vraiment, je pense en tant que carême en particulier, un recyclage, une remise à niveau, comment dire, des ordinateurs, c'est remise à niveau, non, on dit réinitialisation, quelques expressions en informatique qui sont très intéressantes. Oh, on vide l'ordinateur et on reprend tout ça, on refait des fichiers, un fichier évangile, un fichier bible, un fichier, bon, mettre un peu d'ordre là-dedans, parce qu'autrement, ça nous vivons avec des habitudes chrétiennes, ce sont des habitudes, mais elles ne sont pas chrétiennes. Et Saint-Sylvain, je m'arrête après là-dessus, Saint-Sylvain que j'aime beaucoup, c'est un homme très pratique, c'est un paysan russe, il devait lire un peu, très peu, c'est un homme de la tradition du village, comme on a en Roumanie aussi, des gens qui sont presque illettrés, ils sont super cultivés, parce qu'ils ont... Ils ont une sagesse orale, une transmission orale de la tradition à travers la famille, à travers le village, à travers la culture rurale, quand ça existait encore en Roumanie, comme vous savez, c'est quand même assez menacé, il y a des villages qui sont vides maintenant, mais donc Saint-Sylvain, c'est un homme comme ça. Et il dit cette chose très intéressante, il dit le péché, c'est une habitude. Eh bien, on va peut-être la remplacer par une autre habitude. Alors cette doctrine-là est très particulière, là, il faudrait encore un peu de temps pour en parler. Voilà, je m'en pardonne. J'ai pris votre temps, pardon. Là, je m'arrête. Qu'est-ce que vous pensez ? Non, mais par rapport à votre expérience, par rapport à ce que vous vivez, par rapport... La vie chrétienne, c'est une expérience, c'est une connaissance de Dieu par expérience, par la grâce du Saint-Esprit. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une doctrine. Même quand on défend l'orthodoxie, on ne défend pas une doctrine. C'est intéressant, hein ? On ne défend pas une doctrine. Il ne suffit pas d'avoir enlevé le filioque et du credo pour être orthodoxe. On défend autre chose. On dépend d'une expérience ecclésiale, un mode de vie, une expérience de Dieu par le Saint-Esprit qui est transmise de génération en génération par les saints, par ceux qui les vivent. On défend un vécu divino-humain. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est qu'est-ce qu'on vit ? Qu'est-ce que je vis ? Qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que nous parlons, on va être indiscret si vous voulez, mais on parle quand même d'expérience. Mais c'est comme les vrais métiers. Par exemple, moi j'ai connu des artisans, des menuisiers qui savaient ni lire ni écrire. Mais ils avaient un métier absolument extraordinaire, une connaissance du bois, une connaissance du geste, une connaissance de l'humidité de l'air par rapport à ce qu'ils faisaient. Pour moi, c'est une connaissance expérimentale, comme une sens vécue. Nous, on fonctionne beaucoup comme ça dans notre rapport avec les saints, avec les pères spirituels. On est un peu comme des apprentis qui sont avec un maître dans l'atelier. Et le Christ lui-même, on l'appelle notre maître. Et donc, on est beaucoup dans une dynamique, au fond, d'apprentissage. Il y a un disciple, en français en tout cas, outchenik, c'est autre chose, mais en français, disciple, discipulus, ça veut dire l'apprenti, celui qui apprend. Maphitis, aussi en grec, c'est pareil, c'est... Maphitis ou discipulus, c'est celui qui apprend. Utchenik, c'est autre chose. Utchenik, c'est un mot slave qui veut dire qui suit, qui suit le maître. C'est bien aussi. Hein. Mais nous, on est vraiment des apprentis. On apprend une expérience, on apprend à faire, on apprend presque le métier d'être chrétien. C'est que le Christ, dans l'Évangile, un des mots qu'il emploie le plus, un des verbes qu'il emploie le plus, c'est le verbe faire. C'est extraordinaire. Comme j'ai remarqué ça. Bref, si quelqu'un a du temps, vous avez du temps, vous voulez faire un petit travail en vue de votre baptême, cherchez le nombre de fois où le verbe faire est employé dans l'Évangile, vous allez voir. Donc c'est intéressant. Si, par exemple, il dit à quelqu'un, fais ça, fais comme ça, et tu vivras. Ça, c'est dans l'Évangile du bon samaritain, je crois.
Bon.
Pardon. Oui, non, je pourrais expliquer, oui, peut-être une question. Je vais attendre, vous avez des questions. Je regarde dans les yeux. ou des objections. Hein. Je partage ça parce que avec la question que me transmettait Père Myriam, j'ai regardé un peu et je lui ai dit, bon, par rapport à ce que je crois moi personnellement, ce qui est le plus proche de moi personnellement, sont ces écrits-là, oui. Alors, c'est intéressant, parce que Saint Porphyre dit que cette forme de combat, qui consiste à tourner vers le Christ tout de suite, dès qu'on est sollicité par une pensée, entre guillemets, de mort, il dit ça, c'est un combat non sanglant. C'est intéressant, il emploie souvent cette expression-là, le combat non sanglant, alors que le combat contre les pensées, ça serait un combat sanglant, en quelque sorte. Un combat non sanglant. Il y a des passages très intéressants, quand même, je voulais vous dire juste un petit bout. J'aime beaucoup ce saint. C'était le combat spirituel, voilà. Peut-être si je retrouve. Je ne sais pas si je vais retrouver le nom. C'est bien passé. Alors, tout ce que je peux vous recommander, c'est vous procurer ça, de lire ça, de lire un peu. Non, je ne retrouve pas, j'aurais dû mettre au crayon pour le retenir, mais un des passages très clairs où il parle de cette forme de combat qui, en fait, consiste à se tourner vers le Christ, mais avec foi, avec simplicité, sans crispation, sans effort particulier. C'est une orientation du cœur. C'est une orientation du cœur vers le Christ, comme les plantes s'orientent vers le soleil. Ce n'est pas un effort, c'est un choix. C'est un peu différent. C'est un choix, c'est une décision, c'est une orientation de soi vers le Christ. Ce n'est pas un effort musculaire, ce n'est pas une crispation, c'est pas... Et même, oui, tout ce que nous avons dans le domaine ascétique, par exemple les métanies, choses comme ça, qui sont très, très physiques, très musculaires, au fond, bien, dans ce contexte-là, il nous serait conseillé de les faire vraiment comme des gestes d'adoration. On dit ça beaucoup, adorer le Christ. Adore le Christ et tu vivras. Adorer, aimer tout son cœur. Tu te fais tes métanies, mais vraiment avec adoration, comme un amoureux, tu vois, ou une amoureuse. Ça, c'est ça la voie, si vous voulez, de... Même nos rites, nos gestes, très physiques, très corporels, ça ne doit pas être musculaire, ce n'est pas des efforts, on ne doit pas souffler comme un athlète parce qu'on a fait 100 métanies. Non, 100 métanies, c'est sans déclaration d'amour. Vous voyez. 100 fois où on dit « je t'aime » et on le dit physiquement, corporellement. Vous voyez. Je crois qu'il y a toute une école dans l'orthodoxie qui est moins connue que ce qu'on entend souvent, et qui est cette école-là, si vous voulez, essayer de vraiment aller vers le Christ avec amour, par amour, en s'intéressant qu'à l'amour, en pensant qu'il n'y a que l'amour qui est vraiment intéressant, il n'y a que ça qui est vainqueur au bout du compte, il n'y a que ça qui est l'objectif de notre vie, c'est arriver à aimer, aimer comme le Christ aime, à croire qu'il nous aime, et c'est pas... Appliquer les commandements comme des lois extérieures, ça ne sert à rien du tout. Ça crée un moralisme, ça crée des gens qui sont contre des hypocrites, des pharisiens, ça ne sert à rien du tout. Mais quelqu'un qui fait la volonté du Christ parce qu'il l'aime, parce que le disciple est son maître, c'est autre chose, parce qu'il va le faire avec une chaleur dans le cœur, avec une tendresse, avec des larmes d'amour même, vous voyez.
Pardon. Non, mais c'est...
Je répondais à une question qui n'a pas été posée, en fait. Voilà, oui. Bon, peut-être quoi. Ah.
Vous avez parlé de la louange.
Oui.
Vous avez beaucoup dit qu'en fait, la louange, c'était le chemin qui pouvait nous mener à résister à ces passions, à ces tentations. En France, il y a beaucoup de veillées, parfois, de louanges qui sont organisées de manière plus large par le christianisme, par les églises évangéliques ou par l'église catholique. Dans l'orthodoxie, je ne crois pas que ça existe beaucoup, ces veillées où on se rassemble pour louer. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, alors ça, c'est dans... je ne sais pas si comme j'entends très mal, mais je crois avoir entendu ce que tu avais dit. Alors que la prière de louange, elle est quand même indiquée par Dieu lui-même dans la Bible, dans les psaumes en particulier. Je crois que c'est le psaume 49, où Dieu dit à la fin, il dit « Le sacrifice de louange, c'est ça que j'aime ». Donc il y a quand même une option divine, en quelque sorte, en faveur de la louange. Et on pourrait dire que toutes, même nos prières de supplication... il y a des très très belles prières qui sont les prières de matine et qu'on n'entend pas parce qu'elles sont dites silencieusement et donc souvent on dit la première, je ne sais pas si je la sors par cœur, mais pratiquement ça consiste à demander à Dieu d'être capable de le louer. Donc en fait souvent nos prières de repentir et de pénitence, ce sont des prières dans lesquelles on va demander à Dieu qu'il nous donne la capacité de le louer, comme si la louange, la doxologie, la glorification, c'est vraiment l'essentiel de notre relation avec Dieu. Et quand même, toute notre religion chrétienne orthodoxe, au moins, est fondée là-dessus. Tous nos offices commencent par une louange. Béni est notre Dieu, gloire au roi. Ça commence toujours comme ça. Ça se termine. L'Italie se termine par une fenêtre de louange. Ensuite, c'est entrecoupé. Vous connaissez bien la liturgie. Il faut prendre la liturgie comme modèle. Vraiment. Et on commence par la louange, on continue par la demande, on reprend la louange, on retrouve un peu de demande, et on arrive à la fin de l'office. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu, gloire à toi, c'est encore de la louange. Donc on se rend compte que la louange est continuellement présente dans nos offices, qui sont un peu le critère de la vie de prière. Hein. Et donc, c'est vraiment une référence pour moi. Donc, cette espèce d'équilibre, c'est très typique de l'office orthodoxe. Moi, par exemple, je connais assez bien les offices liturgiques occidentaux, parce que j'ai appartenu à des milieux orthodoxes dans lesquels on célébrait les offices occidentaux, qui sont très beaux, les liturgies occidentales, les liturgies gallo-romaines, c'est très intéressant, mais il n'y a pas cette justesse spirituelle, cet équilibre qu'il y a dans le rite byzantin ou slave, qui est vraiment, c'est vraiment très très fort, très très proche finalement de la source biblique. Donc, c'est une chose. Ensuite, ce que vous dites, si j'ai bien compris, c'est qu'effectivement, dans certains milieux non orthodoxes, hein, dans certains milieux protestants, qui sont souvent des gens meilleurs que nous là-dedans, là, c'est sans jugement, parlons quand même des milieux qui sont en dehors de l'Église, qui ne sont pas l'Église, hein, qui sont des communautés exemplaires souvent, mais ce n'est pas l'Église. Et souvent dans ces milieux-là, il y a une mise en avant de la prière de louange. Il y a eu en particulier un écrivain américain, qui s'appelait Merlin Carotter, je ne sais pas comment l'appelait, qui avait développé aux États-Unis tout ça. Ça s'appelait La puissance de la louange. Et c'est un livre très intéressant, mais qui est écrit par quelqu'un qui n'appartient pas à l'Église. Je crois que c'est un pasteur protestant, c'est assez instruit bibliquement, si vous voulez, mais sans aucune référence à l'expérience patristique. Pardon. Et ce qu'il dit est assez intéressant. Et donc, bon, ça peut nous servir, parce que pourquoi pas. Une autre personne que j'ai connue, c'était le père Lève Gillet. Tout le monde a entendu parler de ce prêtre, qui est un des premiers prêtres orthodoxes français de notre époque, qui était devenu... c'était un moine bénédictin au départ, qui était devenu orthodoxe, et qui est devenu un père spirituel renommé, qui a laissé des livres sous la signature d'un moine de l'Église d'Orient. Vous connaissez ça. Et que... Moi, je l'ai connu très peu. Il était très, très, très âgé. Et moi, très, très, très jeune. Donc, je ne l'ai pas beaucoup connu. Mais je me rappelle qu'il nous parlait de ça. Il nous avait parlé. Ça m'avait frappé. Vous savez, c'est intéressant, la vie. Parce qu'au cours de la vie, il y a des flashs à différentes époques de notre vie, depuis l'enfance. À chaque époque, des flashs, une parole, quelque chose nous a dit. Puis ça reste comme ça. Et puis, un jour, on le réutilise. Et je me rappelle très bien que Père Lève Gillet nous avait raconté, donc c'est l'histoire suivante, puisqu'il était prêtre à Londres pendant assez longtemps, et il avait rencontré là-bas une jeune fille dont le père était alcoolique, mais vous savez, il y a alcoolisme, c'est une chose terrible, et dans son père, c'était vraiment l'alcoolisme destructeur pour la famille, enfin, une situation catastrophique. Et elle, qu'est-ce qu'elle faisait, cette fille? Eh bien, elle rendait grâce à Dieu pour son père. Ça, c'est très, très intéressant. Très, très intéressant. Alors, elle ne remerciait pas Dieu que son père soit alcoolique en disant « Merci, mon Dieu, que... » Non, c'était pas ça, exactement. C'est la louange dans une situation infernale. Et c'est d'abord une confession de la foi en la présence de Dieu, que même en enfer, le Christ se trouve. Même dans des situations absolument catastrophiques, le Christ est présent. Et donc, c'est vrai qu'il y a une certaine audace à pratiquer la prière de louange quand... Apparemment, tout va mal, si on peut dire. Parce que c'est pas pour remercier Dieu, c'est pas de la complaisance dans la souffrance, ça serait un peu malsain, mais c'est, comme je l'ai dit à l'instant, un acte de foi que le Christ est présent dans cette situation, qui s'en occupe, qui veut être le Seigneur de cette personne, comme disent justement les protestants à juste titre, parce que si le Christ se manifeste comme Seigneur, comme le Seigneur et le Maître de cette personne, c'est un moment de sa vie, à travers son marasme, cette personne peut reconnaître le Christ vraiment comme Seigneur, ça veut dire que l'Esprit Saint agit. Parce que comme dit l'apôtre Paul, sans l'Esprit Saint, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur. Donc oui, donc la prière de louange, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort. C'est une confession de foi. Moi, j'ai découvert ça, je ne vais pas raconter ma vie, ce n'est pas extrêmement intéressant, mais j'ai découvert l'importance de ça à travers les expériences les plus difficiles de ma vie, relativement récemment, où finalement, j'avais le choix à une prière de supplication, mais pour demander quoi? Les catastrophes étaient déjà arrivées, donc bon. Et finalement, la prière de supplication, etc., ça aurait pu me conduire à un état de neurasthénie, tout simplement, si je demande des choses mais que Dieu ne me donne pas. Ben, moi, j'ai quand même des amis, si vous voulez, qui, en s'y prenant mal, hein, sont arrivés à des états vraiment dépressifs. Vous voyez. Et la prière de louange a des défauts aussi. Parce qu'on peut... C'est le problème de nos amis protestants, c'est qu'ils ne sont pas très axés sur la pénitence. Donc, si vous voulez, on va avoir la prière de louange, mais il ne faut pas que ça, comment dire, faut pas que ça occulte le fait que notre liberté s'exerce souvent en contradiction avec ça. Alors moi, ce que j'ai découvert par expérience, et chez certains d'autres, chez Père Sophronie, enfin Saint Sophron de nouveau, c'est qu'en fait, ça c'est très intéressant, que la prière de louange engendre le repentir. Alors saint Sophrone dit ça, il dit que le repentir pour lui, c'était dire « Comment est-ce que j'ai pu offenser un tel Dieu ?» Alors c'est ça l'articulation, je ne sais pas si je vais arriver à l'expliquer clairement, mais c'est-à-dire quand il dit un tel Dieu, ça veut dire qu'il avait dans sa conscience une louange, une admiration, un émerveillement pour Dieu, que c'est par rapport à, comment dire, justement par rapport à la glorification de Dieu que son péché lui apparaissait comme une chose horrible. C'est très intéressant. Donc en fait, le repentir, le vrai repentir ne peut naître que de la manifestation de la lumière divine. Parce que les pécheurs, par rapport à quoi autrement? Oui, donc c'est par rapport à l'amour de Dieu, par rapport à la beauté de Dieu, que mon péché, je ne parle pas du vol, mon péché personnellement me paraît une folie, quelque chose de détestable. Cette parole, c'est pareil, il m'a dit ça une fois, ça m'est resté. Comment est-ce que j'ai pu faire ça quand je vois qui est Dieu, qui est le Christ, quand je vois toi, comment tu es le Christ, notre Dieu, comment est-ce que j'ai pu t'oublier, comment est-ce que j'ai pu me laisser séparer de toi? C'était l'apôtre Pierre, vous savez, quand il s'est repenti, il s'est demandé comment il avait pu trahir son propre maître, vous voyez. Et c'est ce que Judas n'a pas fait, par exemple. Donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude de la prière de louange, c'est quelqu'un qui va avoir la possibilité, en fait, de voir son péché, parce qu'il n'y a de péché. La définition du péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Donc, tant qu'on cultive, si vous voulez, la connaissance de Dieu par la louange, eh bien, on devient capable de voir ce qui nous sépare de lui. Oui. Mais c'est vrai, il faut faire attention. Et moi, j'ai vu de pas là. Je sais pas, les pères spirituels qu'on a, enfin bon, conseillent souvent de faire un petit peu attention. Mais ça, tu le sens à l'intérieur de toi. Et bon, on pratique la prière de louange parce que c'est bien, mais il y a un moment, tu sens que il y a quelque chose en toi qui réclame, hein, qui réclame la prière de supplication, la prière de repentir. Et là, on revient finalement à Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, pitié de moi, pécheur. Mais on y vient presque naturellement. Il y a quelque chose en nous, je pense, l'Esprit Saint en nous qui nous dit, écoute, mon petit, reviens un petit peu à la prière de pénitence, ça ne fera pas de mal. Donc, évidemment, je crois que quelqu'un qui pratique vraiment la prière de louange, que je considère comme très importante, même d'une manière majoritaire, mais dans le sein de l'Église, hein, tout pareil, il faut vivre dans l'Église. Moi, en dehors de l'Église, je ne sais pas ce qu'on fait, vous voyez. Il n'y a pas de critères, il y a des bonnes personnes, il y a des bons sentiments, mais il n'y a aucun critère, vous voyez. Alors que dans l'Église, donc l'Église orthodoxe, évidemment, on a des critères. Et ce qui fait que ce qu'on fait, à un moment ou à un autre, se retrouve. J'ai une voiture qui fonctionne comme ça, complètement automatique. Si je lâche le volant, elle va à gauche, et là, il y a des lignes, c'est sur le bord de la route, pof, elle revient. Si elle va à gauche, pof, elle revient. Alors, je sens que je la contraigne à rien du tout. Et donc, c'est pareil de notre vie dans l'Église. On sent que c'est pas bon. Oui, on revient par là. Ou bien, on a un père spirituel qui nous dit, écoute, là, surtout qu'en ce moment, tu ferais peut-être bien de dire un peu plus la prière de pénitence, parce que tu ne vois pas vraiment ton péché. Et à l'inverse, quelqu'un qui dit la prière de pénitence tout le temps, quand le père spirituel voit que cette personne est en train d'entrer dans la neurasthénie, il dit, écoute, allez, arrête ça un peu, ça ne te réussit pas, pratique plutôt la prière de louange. Tu vois, tu vas t'oxygéner, tu vas voir un peu autre chose. Donc c'est pour ça aussi, il faut pouvoir vivre dans l'Église, être accompagné aussi, je pense. Mais c'est très intéressant. Qu'est-ce que nous marchons, on a deux jambes comme ça, on marche, mais je pense que l'Église, c'est pareil. Hein. Et la prière de pénitence et la prière de louange, et ça va. C'est très intéressant. Très intéressant. Mais je vous remercie, votre question est très importante. Je sais que moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont en milieu réformé au sens large, qui sont hermétiques à la dimension de pénitence. On ne jeûne pas de carême, il n'y a pas de pénitence, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'absolution, rien que ça, comme si. Parce qu'ils sont allergiques à quelque chose qu'ils ont connu à l'époque, à la fin du Moyen-Âge. Donc, on n'arrive pas. Et même nous qui suivons par exemple le carême, c'est de jeûner, c'est tout ce qu'on essaie de faire, mais c'est rempli de louanges. Pourquoi? Parce que le carême, c'est le temps de la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. C'est un temps extraordinaire. C'est pas un temps lugubre, le carême. C'est un temps de théophanie. C'est la théophanie de l'amour de Dieu pour les hommes. Alors oui, c'est quand même extraordinaire. C'est pour ça qu'on a toujours des doxologies partout, des alléluia partout, que le dimanche, on met tout en blanc parce que c'est la résurrection. En fait, l'orthodoxie, c'est un milieu super optimiste. Et même les moments où il y a, effectivement, si on défend, descend un petit peu en enfer, on sait très bien que dans cet enfer, la lumière de Dieu vient nous chercher. On n'est pas, on n'est jamais en enfer pour y rester. Même si on est très pauvre, c'est très proche. Quelquefois, on sent qu'on est vraiment à la porte de l'enfer. On sent. On s'est tellement éloigné, on est tellement dans les péchés, on est tellement négatif. On a tellement oublié ce que c'est que l'amour de Dieu qu'on est... Oui, on est... Mais vous savez, la porte de l'enfer, c'est une porte très intéressante. Parce que c'est une porte double. Alors, c'est comme les pièces de monnaie. Il y a la face.
Je crois qu'on appelle ça, face.
Bref, l'autre truc. Et la porte de l'enfer, c'est la même que la porte du paradis. C'est la même porte. C'est très intéressant, ça. Oui. Et d'un côté, elle ouvre à l'enfer, d'autre côté, elle ouvre au paradis. Donc, en fait, c'est vraiment intéressant. C'est une porte biface, je ne sais pas comment dire, une porte à deux faces. Il n'y a pas une porte pour le paradis, une porte pour l'enfer. Non, non, c'est la même porte. Très intéressant. Voilà. Ah bon, on peut... Mais c'était quoi votre question déjà, j'ai pas entendu. Mais non, je ne peux pas là, si vous voulez, on peut partager encore quelque chose. Alors, cette jeune fille est très, très aimable, très contente d'être là. Merci. Alors, c'est bien, alors, on a besoin de personnes comme ça. C'est important. On arrête s'il n'y a pas d'autres préoccupations. Je crois s'arrêter de manger en disant « Oh zut, c'est trop court, j'ai encore faim ».
Mais peut-être, moi je vais insister. C'est vrai que, surtout pendant le carême, il y a quand même ce désir de venir se nettoyer, se confesser. Et puis ce que je disais, c'est que des fois, ça peut sembler peut-être un petit peu... des péchés, on va dire, considérés mineurs qu'on fait et qu'on confesse. Et normalement, le deuxième pilier de la confession, c'est pas seulement de les confier au Christ, mais c'est aussi de renoncer aux péchés. On se rend compte qu'on retombe dans les mêmes péchés, que ça revient. Donc, des fois, ça nous démoralise. Je l'ai confessé une fois, deux fois, et j'ai pas réussi à éviter la troisième fois. Comment est-ce que je veux me présenter devant Dieu avec ça? Et surtout, le carême, ça augmente un petit peu, ça amplifie un petit peu cette sensation. Comment on peut, déjà, la recette de se rapprocher plus du Christ que de lutter contre les péchés, c'est déjà une très bonne chose. Et ensuite, comment le vivre? Des fois, ça peut être des passions, effectivement. Dans ce cas-là, c'est un peu plus grave. C'est pas des choses moins importantes, mais des fois, c'est des petites choses qui se glissent dans la vie de tous les jours pour certains ou dans le milieu professionnel.
En fait, il faut revenir à ce que dit Saint Silouan et qui est dit par Saint Jean Cassien également, mais vraiment essayer de remplacer. Et Saint Cassien surtout enseigne beaucoup ça, c'est-à-dire que ses pensées ou ses péchés, on peut les confesser, effectivement les reconnaître comme mortifères, c'est ça, mais on ne va pas en sortir tant qu'on n'a pas mis quelque chose à la place. C'est-à-dire l'inverse. Et dans le cas du jugement, par exemple, c'est très typique. La meilleure façon de sortir du jugement d'autrui, c'est de rendre grâce à Dieu pour la personne qu'on juge. C'est-à-dire, c'est comme en informatique, si tu veux effacer vraiment quelque chose, moi je me méfie. Parce que quelquefois, je pense que c'est effacé, et dans l'ordinateur, c'est pas effacé. Tant que je n'ai pas enregistré quelque chose à la place, je suis pas sûr que c'est vraiment effacé. Il faut enregistrer quelque chose à la place, ou dans les jardins, par exemple. Tant que tu n'as pas planté quelque chose à la place de la plante qui t'embêtait, le truc va revenir. Donc, c'est le principe du remplacement. Saint Jean Cassien insiste beaucoup là-dessus. Il faut remplacer une pensée de mort par une pensée de vie. Et ça, ce n'est pas une pensée au sens intellectuel, c'est essentiellement par la prière. Et c'est pour ça que le Christ a dit « Bénissez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du mal ». Ce n'est pas pour rien, vous voyez, c'est un enseignement concernant le remplacement. On remplace la haine par l'amour, mais on le fait principalement par la prière. Vous voyez. Et ce qui va avec ça, c'est aussi que le sacrement de la confession, il faut y croire, si je peux dire. C'est pas une formalité, c'est pas un entretien psychologique, rien de tout ça. C'est un miracle. C'est-à-dire que le moment où la parole du Christ qui disait aux apôtres que ce que vous délirez sur terre sera délié aux cieux, cette parole s'accomplit aujourd'hui pour toi, pour moi. Donc, c'est un miracle. C'est autant un miracle que les paroles de l'Eucharistie. Quand le Christ dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », ça a lieu. Et là, c'est pareil, quand le prêtre dit « Tes péchés sont pardonnés », il cite le Christ, hein, et ça a lieu. Donc, en fait, ce miracle de la confession, c'est vraiment très important. C'est pour ça que ça n'a aucun rapport avec... On a beaucoup d'amis, si vous voulez, qui suivent des traitements psychologiques. C'est intéressant, mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport, parce que l'absolution, c'est le miracle du pardon donné par Dieu. Et ce miracle, et ce qui est intéressant, si je peux dire, c'est que c'est une énergie. C'est la grâce de Dieu qui se manifeste dans notre vie comme puissance de faire la volonté de Dieu, comme joie. Alors là, justement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ce que je dis à mes amis, c'est que quand ils sortent de la confession, d'abord, qu'ils sachent que Dieu les aime. Dieu te pardonne et Dieu t'aime. Ça, c'est vraiment numéro un. Et souvent, aux enfants, je leur dis, fais une offrande. Tu vas voir ta maman, tu demandes 1 euro à ta maman, tu achètes un cierge et tu mets un cierge pour remercier Dieu de ce qu'il a fait pour toi. Donc ça, ce serait peut-être quelque chose qui nous aiderait aussi, c'est de rendre grâce à Dieu après la confession en le remerciant de nous avoir pardonné nos péchés. Parce qu'autrement, on n'est pas dans un volontarisme, on n'est ni dans un psychologisme, ni dans un volontarisme, on est dans quelque chose qui est lié au mystère de la grâce de Dieu qui agit en nous, elle agit en nous parce que nous le voulons bien aussi, il y a cette synergie. Si je regrette mes fautes, ça veut dire que je demande à Dieu qu'il m'aide, si c'est un appel au secours tout de même, oui. Mais c'est ça, c'est pas une formalité. Je pense que souvent aussi, enfin, je vois ça de ma propre expérience, souvent la confession dans notre église, c'est un peu une formalité. Ce qu'on fait, ce qu'il faut se confesser, bon, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Et ce miracle de transformation, de transfiguration de notre vie, de transformation du péché en bien, c'est intéressant. Le péché qui change de signe. Il change de signe, puisque le péché que j'ai confessé va devenir le programme inverse. Je vais ressortir de la confession en essayant de mettre en pratique l'inverse de ce que j'ai confessé. Vous savez, il y a certaines méthodes thérapeutiques qui consistent à donner au malade qui a une maladie quelconque, on lui donne comme remède
l'homéopathie.
Un poison, n'importe quoi, mais quelque chose qui est l'inverse de son mal. Je crois que c'est en docteur, vous allez me dire ça. Pas en homéopathie, on fait ça aussi. Ouais. Alors c'est là que c'est l'homéopathie ou l'allopathie, mais bon. Donc dans la vie spirituelle, c'est souvent ça. C'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, on est pris par la colère, comment se guérir la colère, elle va se guérir en cultivant l'amour pour cette personne, en leur rendant grâce à Dieu pour elle, en lui envoyant un petit mot, en s'inquiétant pour elle, en cherchant à lui faire du bien, mais c'est de cultiver l'inverse de la colère. C'est la jalousie, comment est-ce qu'on guérit la jalousie? C'est l'inverse de la jalousie, qu'est-ce que c'est? C'est encore la louange, c'est rendre grâce à Dieu pour la personne qu'on jalouse. Donc c'est toujours ça, c'est mettre le remède opposé au mal. Donc comme ça, on avance.
La radio, pardon.
C'est pas ça que vous vouliez dire, peut-être.
Si, c'est une bonne chose. Remplacer les mauvaises herbes avec des bonnes fleurs.
Oui. Oui, c'est une pratique quand même, oui. Parce qu'autrement, vous savez, un truc qu'on n'a pas déraciné, qu'on n'a pas remplacé par autre chose, ça revient. Moi, j'aime beaucoup le jardin, je vois bien, chez moi, on est envahi de plantes qu'on ne veut pas, mais parce qu'on n'a rien. Les déraciner, ça n'existe pas, parce qu'il reste toujours des orties, par exemple. Allez-y. Il reste toujours bout de là qui va redémarrer. Donc, si je ne plante pas quelque chose à la place, et quelque chose qui tienne le coup aussi, parce que l'ortie, si elle revient, elle est capable de bouffer la plante que j'avais mise. Donc, il faut savoir aussi ce qu'on met à la place du péché. Donc, ce soit quand même quelque chose de fort. La louange, pour revenir à ce qu'on disait, c'est très, très, très fort. C'est vraiment l'anti-péché, c'est l'anti-mort. La louange. Très fort.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aura d'autres questions? Christina?
Christina.
Oui, ça s'entend. Oui, rapproche-toi un peu.
Un handicapé. Ouais.
Je me disais, si vous pouvez nous dire un mot, comment on peut aider les enfants, nos enfants de différents âges, à suivre cette voie quand, dans la société, tout ce qui nous entoure, ça nous parle uniquement de affirmer sa puissance, d'être le plus fort, d'être tout le temps en compétition. Et nous, par notre modèle vécu, on n'est pas tout le temps capable de leur montrer le bon exemple, même si on aimerait bien. Si vous pouvez nous donner quelques pistes pour ne pas perdre nous l'espoir non plus en tant que parents et les aider à faire face à la pression énorme quand même de tout ce qui nous entoure et qui ne va pas du tout dans cette direction.
Alors, ce que vous dites à l'instant, c'est quand même d'abord l'exemple. Je vous rappelle mon père spirituel à Bucarest, père Sofiane, nous posait ce genre de questions. Presque chaque fois, il nous disait la même chose, c'est l'exemple, 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 l'exemple. L'exemple qu'on donne aux enfants et la prière qu'on adresse à eux, à Dieu, pour eux, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc, essayer de ne jamais, ben, c'est difficile, hein, mais de ne jamais donner de contre-exemple à un enfant. Parce que ça, le problème avec les enfants, c'est qu'ils sont très intelligents, ils sont beaucoup plus intelligents qu'on ne pense, on a tendance à les sous-estimer, et en fait, ils voient très bien les contradictions. Les parents ou les prêtres, enfin bon, ceux qui ont la parole, disent une chose et après ça, ils font une autre. Alors ça, c'est catastrophique, on a tout détruit et pour rattraper. Après ça, c'est très difficile. Mais je pense que sur un certain temps, par exemple, si vous arrivez pendant 6 mois à ne pas vous contredire, l'enfant finit par enregistrer que tout de même, il y a une cohérence entre ce que le parent dit et ce que le parent fait. Ça peut se guérir, vous voyez, c'est pas fichu. Mais c'est vrai qu'une bonne partie de la souffrance des enfants vient du fait que les parents soit mentent, soit se contredisent, et se contredisent devant eux. Et ça, la société elle-même donne des exemples qui sont très, très décourageants pour les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui se suicident quand même à notre époque. Pourquoi ? Parce que les exemples qu'ils ont autour d'eux ne les aident pas. On dit ça, on fait une autre. Ou alors, même des gens, parce qu'ils entendent tout. Alors, au niveau du gouvernement, on a dit, on ne fera plus tel truc. Et 3 mois après, on dit, ce tel truc qu'on avait dit qu'on ne ferait plus, c'est maintenant obligatoire. Qu'est-ce que vous voulez que l'enfant comprenne, vous voyez ? Donc ça, faire attention, les contradictions dans le monde des adultes, c'est absolument, comment dire, c'est mortifère pour l'enfant. Donc c'est vrai, du coup, ça nous revient à nous, ben, qu'on soit parent, qu'on soit prêtre, qu'on soit catéchète, qu'on soit président de la République, je sais pas. Alors, faisons extrêmement attention. D'abord, attention à nous-mêmes. D'abord, ça. Et la prière. Je me rappelle, il y avait un prêtre grec qui avait des enfants vraiment très équilibrés, très, très bons, très gentils. Alors, les gens lui disaient, mais comment est-ce que vous faites pour avoir des enfants aussi gentils? Qu'est-ce que vous leur donnez comme croquettes, etc. On dit ça pour les chats. Et donc, il avait dit très simplement qu'il passait presque une heure chaque jour à prier au pied du lit de ses enfants depuis qu'il était né. Et donc c'est un investissement. Donc je ne sais pas qui parmi nous prie une heure pour ses enfants, ou chacun de ses enfants, ou ses enfants pris en groupe chaque jour. Quelquefois, on ne le fait pas. C'est pas pour culpabiliser, si vous voulez, mais pour dire que techniquement, si vous voulez, moi, je sais pas, objectivement, il y a un rapport quand même entre la prière. Alors, effectivement, pour revenir à la prière de l'ange, que notre ami vous m'avez bien sollicité, imaginez que vous passez, alors une heure, vous ne le ferez pas, vous n'avez pas le temps, alors on négocie, une demi-heure, un quart d'heure, un quart d'heure par jour, mais un quart d'heure par jour, vraiment, à dire à Dieu. Gloire à toi pour ton enfant, un tel ou une telle, ça. Un pendant un quart d'heure. Lundi, un quart d'heure pour tel enfant. Si vous en avez 5 ou 6, ça fait lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mardi, c'est un quart d'heure. Gloire à toi pour ton enfant, un tel. Mercredi, ça va être l'autre. Et même dans la journée, quand vous allez au travail, continuez à rendre grâce à Dieu pour votre enfant, que votre enfant soit porté par votre prière presque toute la journée, dans les déplacements, vous faites passer l'aspirateur, vous pouvez prier en allant au travail, en revenant du travail. Vous savez, on peut prier beaucoup plus qu'on y a. On perd beaucoup de temps. Par exemple, l'autre jour, j'attendais, même ce matin, par exemple, un exemple, une heure de retard. Mais c'est génial, hein. C'est une heure de prière, quand même. J'ai rarement ça, vous voyez. Dans l'église, oui, j'ai quand même une heure de prière. Les déplacements, train, tout. Donc il faut prendre comme des cadeaux quand tu attends à la caisse, à Monoprix, par exemple. J'entends chez le vétérinaire, j'entends chez le médecin, enfin, on attend beaucoup finalement. Et dans les pays communistes, je me rappelle à l'époque communiste en Roumanie, on attendait tout le temps, il y avait toujours des queues comme ça. Et quand tu arrives à la fin de la queue, on dit « Ah ben non, il n'y en a pas !» Donc tu as fait la queue pour rien en plus. Mais tu avais une heure, 2 heures, 3 heures, trois heures de queue quelquefois, en Tabucarès, pour avoir quoi, une boîte de sardines, je sais pas. Donc c'est trois heures de prière. Donc les gens intelligents, le chrétien doit être intelligent. Il faut être intelligent, mes amis. Si tu es intelligent ou intelligente, tu profites des moments que Dieu te donne pour justement lui parler tout le temps, en fait. Lui parler tout le temps. Vous savez, on ne fatiguera pas Dieu avec nos prières, parce que Dieu est un... Comment dire, c'est un amour ineffable, sans limite, inconditionné, sans mesure, une dilatation de l'être absolument au-delà de tout de ce qu'on peut se représenter. Donc nous, même nos prières, même si elles sont insistantes, c'est microscopique par rapport à l'océan de l'amour de Dieu. On voit ça dans l'Évangile. Et là, ce qu'on appelle la veuve importune, c'est celle qui tannait le Christ pour ça. Même cette femme qui était malade, elle a pris le manteau du Christ, elle l'a tiré comme ça. Il y a quand même beaucoup d'exemples de gens qui viennent tanner, si je peux dire, le Christ pour leur enfant. Oui, comment ça s'appelle, la cananéenne. L'Évangile est très réduit. En réalité, si on se représente la scène, ça a duré beaucoup plus longtemps que le temps qu'on met à lire cette histoire-là. Elle a vraiment tanné le Christ, elle l'a embêté, si vous voulez, tant qu'il ne faisait pas quelque chose pour sa fille qui était malade. C'est l'exemple d'une maman qui ne lâche pas le Christ tant qu'elle n'a pas obtenu de lui. Nos rapports avec Dieu sont des rapports, comme je vous dis, des rapports d'homme à homme. Elle ne lâche pas. Le centurion, c'est pareil, il dit « Non, non, viens pas chez moi, mais tout de suite, là, tu me dis tout de suite que mon fils est guéri. » Donc, les parents, je pense, c'est dur, mais être parent, je crois que, vous savez, on va parler de ça cet été, parce qu'on a choisi, justement, avec le métropolite Joseph, de consacrer l'université d'été, à ce qu'on appelle la parentalité. On a appelé ça l'apprentissage de la parentalité dans l'Église. Je pense qu'il y a aussi ça, vous voyez, c'est-à-dire que être parent, comme vous le savez, c'est très, 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 très difficile, et souvent on fonctionne parce qu'on imite ça, on fait comme faisons nos parents, mais on a lu tel bouquin, mais il y a probablement une façon chrétienne de fonctionner qui est principalement liée, moi je pense, c'est ce que je vais expliquer, je le dis maintenant, qu'il y a la grâce que le couple reçoit, ce qu'on appelle la grâce du couronnement. La grâce du couronnement, ça aussi, c'est pas un rite vide, c'est une épiclèse, mes amis. C'est une invocation du Saint-Esprit sur le couple. Ça veut dire qu'un couple couronné, c'est un couple qui a une capacité charismatique absolument étonnante. C'est un couple qui est capable de ressusciter ses propres enfants s'il s'y met. Et donc ça, je crois beaucoup à ça. Je crois, si vous voulez, à la présence du Saint-Esprit et à la présence du Christ par le Saint-Esprit dans les sacrements qu'on célèbre. Donc les parents se trouvent, au moment où ils mettent les enfants au monde, ils se trouvent équipés, si je peux dire, équipé d'une grâce, d'une capacité, d'une compétence, d'une parentalité charismatique. Ils sont les parents spirituels de leurs enfants aussi. Ils ne sont pas que les parents biologiques, pas que les parents sociologiques. Ils sont aussi les parents charismatiques de leur enfant. Et ça, on ne le dit pas assez. Du coup, les parents se découragent. Quand on les encourage pas assez dans ce sens-là. Et on leur dit, mais si, tu peux, je t'assure, essaie, t'as essayé sur 6 mois, sur 3 semaines, tu vas voir comme ta vie va changer. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas là non plus, c'est pas de la magie, on n'est pas là à faire tout pour avoir un résultat, pour faire attention à ça. Attention à ça, on est, comment dire, l'obsession du résultat, c'est pas absolument la fin du monde. Il y a quand même autre chose, on prie aussi pour être en communion avec Dieu et pour vivre ce qu'on vit, quelquefois de très douloureux, la vie dans son amour, dans sa lumière, même une grave maladie. On aimerait bien que notre enfant guérisse quand même, donc on supplie Dieu de guérir notre enfant. Mais c'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est plutôt de vivre ce drame familial, par exemple, de vivre dans un amour extraordinaire, dans une joie extraordinaire, dans une dilatation absolument des personnes par la présence du Christ, de sentir que le Christ est présent dans cette souffrance familiale. Ça apporte. C'est vrai, le Christ, quelquefois, il ne nous donne pas la guérison matérielle, mais il nous donne la vie éternelle. Et c'est ce don de la vie éternelle dans les épreuves de la vie qui est vraiment extraordinaire. Donc être parent, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça n'a aucun rapport avec ce que vous dit la société, qui dit des choses intéressantes, si vous voulez, mais elle ne vous parle pas du Saint-Esprit, elle ne vous parle pas de Dieu, elle ne vous parle pas du Christ, elle ne vous parle pas du salut, elle ne vous parle pas de la résurrection, donc elle ne vous parle de rien, en fait. Oui, il faut quand même savoir qu'est-ce qu'on fait, la vie étant très courte, surtout la mienne. Moi, je prends le plus vieux ici, donc... L'avion est en cours, il ne faut pas perdre de temps non plus. Vous avez des mamans avec un petit enfant, mais c'est, on vous encourage à être des parents priants.
Pardon.
Vous savez, on est là pour parler, c'est pas pour parler, c'est pour s'aider les uns les autres. Moi, je pense que l'Église, c'est une fraternité. Et que les prêtres sont là pour ça, pour manifester cette fraternité, c'est-à-dire une entraide. On est là pour s'entraider, parce que c'est pas si facile. Et effectivement, comme dit Christina, rien dans la société ne nous aide. C'est vraiment... vraiment comme être réaliste, pas beaucoup. Et donc, il n'y a que dans l'Église, dans la tradition de l'Église, dans la vie des saints, dans l'enseignement du Christ, surtout dans l'Évangile, que nous trouvons notre force. Mais nous la trouvons surtout dans le fait que nous, regardez, nous sommes là ensemble et nous nous entraînons, nous nous serrons les coudes, chrétiennement parlant, pour avancer et pour réaliser le programme du Christ.
Merci beaucoup.
Bon. Vas-y, pose-la ta question. Dans les yeux, je vois que tu as une question, mais si.
Là, je ne trouve pas les mots, mais c'est vrai que dans ma tête, il y a plusieurs questions. C'est que vous avez parlé, ça m'a.
Peut-être que c'est une remenèche de chez nous. Non, pérogue. Pas petit, c'est une remenèche.
Même comme ça, ça m'a aidé beaucoup. Que vous avez parlé déjà, je commence déjà à faire des réflexions dans ma tête. Surtout que vous avez parlé, c'est très intéressant. Ça m'a aidé un petit peu.
Gloire à Dieu.
Chaque jour, si on prend des choses, ça me fait du bien, ça me fait grandir hein, dans l'amour de Dieu.
Oui, c'est ça, c'est l'amour de Dieu, c'est ça. On dit tout à l'heure avec quelqu'un, ce qui est important, c'est que l'amour soit vainqueur. Il faut gagner notre vie, c'est une vie qui est orientée vers une victoire, qui est la victoire de l'amour dans notre vie. Et là, maintenant, pas après, je ne sais pas quand, là, maintenant, tous les jours. Biruinsa, Dragostei.
C'est très bien.
Voilà, bon. Voici une question. Ça, aux yeux. Je sais comment
parler. Ma question, c'est le père de bien qui l'a posé tout à l'heure.
Quand on revient sur le même...
On confesse, et puis on n'y arrive pas, et on retombe dans le même péché, et puis on se reconfesse. On a l'impression de jamais y arriver, en fait.
Oui. Mais donc, là, on a essayé quand même de traiter ce sujet
un peu, là,
pour vous aider. Mais il faut savoir aussi, même avec tout ce qu'on a dit, Père Militaire et moi, il y a quand même aussi des situations dans lesquelles Dieu permet que... qu'on tombe encore là-dedans. Et pourquoi ? C'est très intéressant. Il y a dans un écrit des Pères du désert, il y avait, il y avait deux garçons qui sont venus voir l'ancien, et ils ont confessé le même péché. Et alors l'ancien, leur a dit, allez sur la route, mais ramassez autant de cailloux que vous pouvez prendre. Alors celui qui a ramassé des petits cailloux, il est arrivé avec des sacs, c'est tout content. Et l'autre, il n'avait pris qu'un gros caillou, il n'a jamais pu l'apporter. Mais en fait, derrière cette histoire-là, il y avait que Dieu aussi nous laisse des objets, si je peux dire, apporter, et qu'on doit apprendre à les gérer, on doit apprendre à en tirer parti. Quelqu'un qui est malade de la colère, par exemple, c'est vrai que on dirait que c'est mieux d'arriver à sortir, que tu ne mettes plus en colère, blah, blah. N'empêche qu'avec la colère, il va apprendre peut-être beaucoup de choses, peut-être apprendre l'humilité, il va apprendre la patience, il va apprendre à ne pas se glorifier lui-même, il va apprendre tout ce qu'il peut apprendre avec cette passion. Et quand il aura fini d'apprendre tout ce qu'il a à apprendre avec cette passion, hop, Dieu le lui retirera. Et souvent, Dieu nous laisse une passion, un péché qu'on confesse, et il nous le laisse parce que nous n'avons pas tiré tout le parti que nous pouvions de cette situation. C'est très intéressant. Il faut toujours savoir que Dieu est un père, c'est-à-dire un pédagogue, et qu'il nous donne ce qui est bon pour nous, ce qui va nous permettre d'apprendre quelque chose de lui. Oui. Donc ça ne contredit pas, bien sûr, on devrait sortir aussi des péchés, mais si vraiment en ayant mis en pratique tout ce qu'on vient de dire, les remplacer par la louange, machin, tout ce qu'on vient de dire, si ça perdure, c'est que d'une certaine façon, je vais dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu as m'enseigné par ce péché ? Dis-moi ce que tu... Et puis écoutez ce que Dieu dit en nous, il va nous parler à l'intérieur de nous, ou il va nous parler par un psaume, ou il va nous parler par quelqu'un, et on va avoir la réponse. On dit, ah oui, effectivement, c'était ça que j'avais à apprendre. J'avais à apprendre, par exemple, la patience. impérable. Tu vois, et donc, quand j'aurai appris la patience, cette colère ne servira plus à rien, donc on peut la jeter. Ça, c'est très intéressant. On peut voir quoi, la pédagogie, le Dieu dans notre vie. Et on est dans un système divino-humain, si vous voulez, où Dieu agit chez nous, principalement pour effectivement nous enseigner. Il nous donne une sorte de travaux pratiques tous les jours pour essayer de mettre son enseignement en pratique et de progressivement nous rapprocher du modèle qu'il nous a donné dans son Fils incarné. Donc par le Saint-Esprit, il nous conduit comme ça vers le Fils, mais il nous conduit à travers des travaux. C'est la vie, on dit spirituelle, la vie intérieure, si vous voulez, ce sont des travaux pratiques.
Beaucoup. Des chantiers. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Sinon, on va dire la prière.
Oui, on va dire une prière.
Cuvines cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Père, donnez la bénédiction.
Seigneur Jésus, notre Dieu, sois invisiblement présent avec nous par la grâce de ton Esprit Saint. Par les prières de ta Mère très pure et immaculée, par la puissance de ta sainte et vivifiante croix, par les prières de tes saints et justes ancêtres, Joachim et Anne et de tous tes saints, éclaire toi-même nos intelligences et nos cœurs, et rends-nous dignes d'accomplir ta sainte et divine volonté, car tes saints, ô notre Dieu, nous te rendons gloire dans les siècles des siècles.
Amen.
Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, fais-nous miséricorde et sauve-nous.